Radio Shalom. Le journal vous est présenté par Pierre Landus.
Bonsoir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est rendu aujourd'hui à la Knesset pour le vote crucial sur le budget, bravant l'avis de ses médecins à peine quelques jours après une intervention chirurgicale majeure. De son côté, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a justifié son opposition au budget de la coalition dans un long message dénonçant ce qu'il qualifie de budget de persécution présenté par le ministère des Finances. Les Houthis affirment disposer d'un arsenal militaire sophistiqué capable de frapper le territoire israélien. Dans le même temps, le porte-parole des Houthis a affirmé que la milice avait lancé un missile balistique sur l'aéroport Ben Gurion et un missile balistique sur une centrale électrique au sud. Ont déclaré d'autre part avoir mené une attaque contre un porte-avions américain à l'aide de plusieurs drones et missiles de croisière. Un haut responsable du Hamas a déclaré à la chaîne saoudienne Al-Shak que l'Égypte et le Qatar multiplient les efforts pour relancer les négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages. Et puis l'armée israélienne qui a mis à jour un important dépôt d'armes dans la région de Salouki au sud Liban lors d'une opération militaire. Les forces de défense israéliennes ont localisé un entrepôt dissimulé dans une zone stratégique recelant un arsenal militaire conséquent. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à vous, Yael Ifra.
Bonsoir, Pierre.
Yael Ifra, vous êtes l'une de nos correspondantes permanentes en Israël. Alors, on a vu aujourd'hui, chose très étonnante, Benjamin Netanyahou se rendre au Parlement israélien, à la Knesset, pour un vote important, celui du budget. Et on a senti que la coalition était au bord de l'implosion, car entre le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir, et son collègue des Finances, Bezalel Smotrich, rien ne va plus.
Oui, alors c'est pas la seule haine ou la seule opposition au sein de cette coalition assez compliquée, en effet, qui était censée être extrêmement confortable, hein, puisqu'on rappelle que maintenant, alors c'était une coalition qui, après les élections, comptait déjà 64 députés, donc sur 120, donc c'est une large majorité. À cette coalition s'est joint il y a quelques mois Gideon Saar, qui va maintenant faire son retour au Likoud. Il a monté la coalition à 68 et donc on pensait qu'elle était en effet capable de traverser toutes les secousses. Or, il s'avère que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est le vote du budget qui a mis en lumière les fractures importantes, hein, qui existent au sein de cette coalition, avec des lignes de tension importantes. D'abord, la première, évidemment, c'est l'incapacité de Benjamin Netanyahou à faire passer la loi qu'exigent les partis ultra-orthodoxes, une loi qui est destinée à inscrire de façon définitive l'exemption totale de service militaire pour la totalité des jeunes issus donc du monde ultra-orthodoxe en Israël. Aujourd'hui, il s'agit de plus de 70 000 jeunes, pour chaque classe d'âge environ 12 000, à l'heure où Israël, on le sait très bien, traverse une crise, l'armée israélienne traverse une crise de main-d'œuvre, entre guillemets, puisque des dizaines de milliers de soldats ont été blessés, plus de 800 soldats ont déjà été tués, et il manque à Tsahal aujourd'hui 10 000 combattants. Or, cette loi est pratiquement impossible à faire passer parce que, à l'intérieur du Likoud, il y a évidemment des députés qui, eux, ne sont pas ultra-orthodoxes et qui désirent que cette loi ne passe pas. Donc, Netanyahou est bloqué entre le marteau et l'enclume. On est sur fond de vote du budget. Ce budget se passe dans un contexte économique très dur en Israël. Israël est en récession. La guerre coûte très cher, déjà plus de 200 milliards de shekels. Les citoyens israéliens vont devoir mettre la main à la poche de façon considérable, avec des vagues d'augmentation de taxes, d'impôts, de prélèvements, de cotisations qui vont rendre la vie des familles israéliennes très difficile. Et c'est sur une de ces lois destinées à ramener justement de l'argent, non pas par la poche des citoyens, mais par les entreprises, que tout a assopé. une loi dite des bénéfices non distribués qui est censée ramener 10 milliards de shekels à l'État, donc c'est une somme importante, et c'est ce moment qu'a choisi Itamar Ben-Gvir, le troll du gouvernement, pour venir faire chanter la coalition en disant qu'il ne voterait pas pour cette loi, donc importante, si on ne lui ajoutait pas encore des budgets pour son ministère. Donc Ben-Gvir, hein, c'est vraiment l'uber populiste, hein, c'est un ministre qui ne cesse de réclamer des budgets pour la police et pour les gardiens de prison, alors même qu'il n'a même pas réussi à utiliser tous les budgets considérables qui lui ont déjà été accordés l'année dernière. Il n'a réussi à pourvoir que 2000 postes, hein, sur les 6000 qui lui ont été accordés. Donc en fait, c'est purement une demande populiste qui vise à faire tanguer la coalition et à montrer sa force. Il a donc voté contre. Un certain nombre des membres de son parti ont voté contre, mais pas tous, hein, il y a toutes sortes de deals politiques. Et donc, pour pouvoir faire passer la loi, on a dû à faire venir en urgence à la Knesset, et ça a été le drame, Binyamin Netanyahou, comme vous l'avez dit, qui se remet d'une opération d'ablation de la prostate, une opération assez lourde, hein, pour un homme de 75 ans quand même. Il a dû venir de l'hôpital contre l'avis de ses médecins. La même chose pour le député Boaz Bismuth, qui est en période de deuil puisqu'il a perdu sa mère et qui a dû quitter la Shiva, donc de sa mère, pour venir voter en même temps, et donc pour venir voter, pardon, en même temps que Netanyahou. Et donc le texte a été adopté de justesse avec 59 voix pour, 58 contre, puisque une partie des députés ultra-orthodoxes se sont abstenus. Donc on voit aujourd'hui, comme vous l'avez dit Pierre, hein, la coalition est tendue à l'extrême. De toute façon, les différentes personnes qui la composent n'ont pas vraiment ni de vision commune, ni d'autre chose que des intérêts à court terme communs. Et surtout, leur seule caractéristique, et ce sont les partis qui acceptent de siéger avec Binyamin Netanyahou malgré sa mise en examen et ses procès. Et donc, c'est pour ça qu'on savait qu'avec la guerre, elle serait mise à rude épreuve. Et on se rend compte que même une coalition qui a 8 sièges d'avance, hein, donc sur 120, 68 n'arrivent plus à faire passer des lois. C'est effectivement une crise grave. Pour autant, je peux vous dire que la coalition n'est pas près de tomber. Mais effectivement, si une opposition un petit peu plus combative est capable d'exploiter des moments comme ça, on pourrait quand même voir un petit peu de lumière pour l'opposition au bout du tunnel. En tout cas, le budget n'a pas terminé de passer. D'autres concessions seront probablement nécessaires. Et cette crise reflète bien cet équilibre très ténu qu'on a aujourd'hui dans le gouvernement et dans la Knesset israélienne.
Yael Ifra, merci d'avoir été avec nous en direct sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes l'une de nos correspondantes permanentes en Israël. Bonsoir Yael.
Merci Pierre, bonne soirée et bonne année.
Et bonne année à vous. Les Houthis affirment disposer d'un arsenal militaire sophistiqué, capable de frapper le territoire israélien. C'est ce que révèle une source militaire de haut rang yéménite qui a été citée par la chaîne libanaise Al-Mayadin. Outre les missiles hypersoniques, le mouvement terroriste yéménite disposerait de missiles balistiques de fabrication iranienne, notamment de type Zulfikar à propergol solide, capable d'atteindre Jaffa sans être intercepté, c'est ce que déclare cette source militaire de haut rang yéménite. Les Houthis qui ont revendiqué le tir de 2 missiles balistiques hier soir contre Israël, les Houthis d'autre part qui promettent de nouvelles surprises à Israël. De son côté, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a dénoncé les attaques Houthis contre des cibles civiles israéliennes lors du Conseil de sécurité. Il a notamment évoqué les dégâts causés dans une école à Ramat Gan par un missile balistique et la blessure d'un enfant de 3 ans à Jaffa. Un haut responsable du Hamas a lui déclaré à la chaîne saoudienne Al-Shak que l'Égypte et le Qatar multiplient les efforts pour relancer les négociations sur un cessez-le-feu et la libération des otages. Selon ce responsable du Hamas, un accord serait possible si le gouvernement Netanyahou revenait sur ses nouvelles conditions. Le Hamas propose la libération d'otages vivants et morts, civils et femmes, y compris des femmes soldates, en échange de prisonniers palestiniens, d'une aide humanitaire à Gaza, du retour des réfugiés gazaouis et d'un retrait progressif des forces israéliennes selon un calendrier défini. Mohamed Saadi Masri, qui était le commandant de l'unité de roquettes du djihad islamique dans le nord de la bande de Gaza, a été éliminé par une frappe aérienne au début du mois. C'est lui qui avait notamment ordonné de faire pleuvoir des roquettes sur les localités israéliennes frontalières le 7 octobre 2023. Le Hezbollah, de son côté, qui menace Israël si l'armée israélienne ne se retire pas du pays dans les 60 jours suivant l'accord de cessez-le-feu, nous agirons en conséquence. Et comme nous sommes le dernier jour de l'année civile 2024, c'est l'occasion avec vous, Raphaël Uzan, de faire un bilan sur cette année. La fin de l'année approche avec l'heure donc du bilan, je le disais, qui a été riche en actualités politiques, historiques, culturelles et sportives. On va faire un récap avec vous de cette année écoulée, Raphaël.
Et oui, Pierre, à quelques heures de passer à la nouvelle année, on peut dire que 2024 a été historique et riche en rebondissements politiques, tant en France qu'à l'international. Alors souvenez-vous, grâce à une offensive éclair du groupe islamiste HTC fin novembre, le régime syrien de Bachar el-Assad s'est écroulé et le 8 décembre, celui qu'on surnommait le boucher de Damas a fui pour trouver refuge en Syrie. En Russie, tout à fait. En 2024, une année historique, mais aussi tragique. En effet, le conflit entre Israël et le groupe terroriste du Hamas n'a pas connu de répit, mais au contraire s'est étendu sur toute la région. Tout en poursuivant la guerre à Gaza, l'armée israélienne a déclenché une offensive majeure contre le Hezbollah au Liban, lancé des frappes en Iran, en Syrie et au Yémen. Par ailleurs, l'État hébreu a tué 3 chefs du Hamas, Ismaël Haniyeh, Mohamed Def et Yahya Sinwar. Alors la guerre sur un autre front et une escalade dangereuse en Ukraine, comme vous le savez, Pierre, le conflit s'approche de son 3e anniversaire et les Ukrainiens, en recul sur le front, craignent de plus en plus de perdre le soutien de leurs alliés et de se voir imposer la paix à des conditions désavantageuses. Après des mois sans réelles avancées, la surprenante offensive ukrainienne sur la région russe de Koursk cet été a déstabilisé Moscou. Depuis, les soldats russes ont reconquis plus de 40% des territoires perdus, notamment grâce à l'aide de soldats nord-coréens appelés en renfort.
Et l'année 2024 qui a battu des records quant au nombre d'élections qui se sont tenues un peu partout dans le monde.
Alors, en parlant de la Russie, le 16 février, Le Monde apprenait avec stupeur la mort en détention d'Alexeï Navalny, 47 ans. Il était l'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine. Pourchassé par le régime depuis des années, Navalny était retourné en Russie après avoir été soigné en Allemagne pour un empoisonnement. Aussitôt arrêté, il a été condamné à 19 ans de prison, qu'il purgeait dans une colonie pénitentiaire de Sibérie, dans une des conditions extrêmement dures. Une commission d'enquête russe a par ailleurs conclu que sa mort n'était pas de nature criminelle. Un mois plus tard, le 17 mars, Vladimir Poutine a été réélu président de la Russie pour la 4e fois avec 88% des voix. Alors, vous me parlez d'élections, Pierre, et la plus attendue était celle, sans doute, des États-Unis, le 5 novembre, apogée d'une année marquée par les multiples rebondissements, comme celle de la tentative d'assassinat sur Donald Trump.
Et comment ne pas parler de 2024 sans parler de sport ?
Et oui, Pierre, comme de nombreux auditeurs, nous avons vécu un été féerique grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui demeurent sans aucun doute l'événement majeur de l'année 2024. Alors, si vous êtes amateur de football, vous avez certainement regardé la 17e édition de l'Euro de football, où l'équipe de France s'est inclinée en demi-finale face au vainqueur de la compétition, l'Espagne. En revanche, 2024 sera une année triste pour les fans de tennis, car en effet, le 20 novembre dernier, Rafael Nadal annonce sa retraite. En tout cas, Pierre, comme vous le savez, l'année 2024 a été marquante, et espérons que 2025 nous réservera cette fois de meilleures surprises.
Merci Raphaël et bonne année à vous. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec notre premier invité, Yigal Palmore, qui est ancien diplomate israélien.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute. La radio qui vous écoute.
Orte France est un réseau d'écoles présent à Lyon, Marseille, Montreuil, Paris, Strasbourg, Toulouse et Villiers-le-Bel. Plus de 40 formations diplômantes dans les domaines du tertiaire, du paramédical, du digital, de l'énergie et de la mode. Orte France promet un enseignement de qualité du collège au bac plus 5 en initiale ou en alternance depuis plus de 100 ans, permettant à 86% de nos étudiants d'obtenir leur diplôme en 2022. Orte France, c'est aussi un réseau d'entreprises partenaires dynamiques qui accompagnent nos jeunes dans leur démarche recherche de stages et d'emplois. Faites le choix de la réussite. Choisissez Horte France.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Bainetdeco.fr.
Pourquoi on allume des bougies à Hanouka, papy?
Les bougies symbolisent la lumière, mon petit. Mais cette année, il faut aussi penser à ceux qui sont dans l'obscurité.
Ceux qui n'ont rien?
Exactement. L'OSE aide les enfants et les familles dans le besoin à célébrer Hanouka.
On peut aider aussi?
Oui, en faisant un don. Chaque petit geste peut illuminer le cœur de quelqu'un.
Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur ose-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75 010 Paris. Vous êtes sur Radio Shalom.
Yigal Palmore, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmore, vous êtes ancien diplomate israélien. On va revenir avec vous en ce dernier jour de l'année civile 2024 sur cette tension qui persiste et cette guerre qui persiste toujours concernant Israël avec les Houthis qui revendiquent le tir de deux missiles balistiques. C'était hier soir contre Israël. Les Houthis d'ailleurs qui promettent des surprises à Israël. Et d'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danone, a déclaré, il avait demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, et il a déclaré à ce sujet, c'était hier, que les Houthis, un groupe terroriste, est obsédé par la destruction d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, le nouvel objectif de l'État d'Israël, ce sont les Houthis?
Alors d'abord, c'est évidemment le seul parti, en fait, c'est le seul groupe, le seul, je dirais pays, mais c'est pas vraiment un pays puisqu'il ne contrôle que la moitié du Yémen. En tout cas, c'est le seul ennemi qui continue à tirer, bon, avec le Hamas évidemment, dans la mesure de ses capacités restantes, mais c'est le seul qui persiste et signe, qui continue à tirer des missiles ou à lancer des drones sur Israël. Donc évidemment, c'est notre premier souci de défense. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les Houthis causent de graves dommages, d'abord à l'économie égyptienne, puisqu'ils empêchent des navires de passer par le canal de Suez, et les pertes pour l'Égypte, les pertes en rentrée de droits de passage sont énormes. Ensuite, c'est évidemment un grand souci pour tous les pays qui commercent à travers le canal de Suez. En premier lieu, bien sûr, les pays européens, mais aussi les États-Unis, mais aussi la Chine. Et tout le monde fait comme si ce n'était que le petit souci d'Israël, que ça ne concernait personne d'autre. Alors, on a vu qu'une coalition anglo-américaine avait également mené des attaques contre des cibles Houthis. Ça semble être insuffisant pour le moment. Le passage de navires est dans le détroit d'Aden est en ce moment très compromis. Et je ne comprends pas pourquoi la communauté internationale et surtout les pays qui sont concernés, dont la France, regarde de l'autre côté et fait semblant comme si c'était le problème d'Israël et c'est à Israël de le résoudre. Il faut quand même appeler un chat et parler d'un problème international et du danger à la navigation internationale que posent les Houthis.
En même temps, vous écoutant Yigal Palmore, j'ai envie de vous dire que Israël fait le boulot pour tous ces pays-là. Il l'a fait par rapport au Hezbollah, il le fait par rapport au Hamas, et donc il peut continuer à le faire par rapport aux Houthis.
Oui, il peut le faire, mais vous savez, on commence à en avoir un peu marre de faire le sale boulot pour une grande partie de la communauté internationale, et en même temps, non seulement de ne pas recevoir des exceptions de gratitude, mais plutôt le contraire, de devoir faire face à une pluie de condamnations et de mesures de mesures de protestation, de mesures hostiles de la part de certains pays. pays. Donc il faudrait savoir, soit vous nous laissez faire le travail, soit, et vous ne nous empêchez pas de le faire, soit vous taisez, hein, ou alors vous, et ça serait le mieux, vous vous attelez à la tâche, vous ne le laissez pas tout seul, mais nous laisser tout seul sur le front pour faire le sale boulot pour vous, et en même temps nous mettre un poignard dans le dos, ça commence à bien faire.
Yigal Palmor, ça s'est calmé à la frontière nord d'Israël avec le Hezbollah, bien que le Hezbollah précise aujourd'hui, si l'armée israélienne ne se retire pas du pays dans les 60 jours suivant l'accord de cessez-le-feu, nous agirons en conséquence. Mais on va dire que par rapport au Liban et au cessez-le-feu, ça se calme. En Syrie, depuis la chute de Bachar el-Assad, là aussi, que ce soit les transferts d'armes de l'Iran vers la Syrie, les choses se sont calmées. J'ouvre une parenthèse en précisant que le ministre français des armées, Sébastien Lecornu, a lui annoncé que l'armée française a frappé des positions de Daesh en Syrie. Et en fonction de ce que je viens de dire, il y a, je dirais, une redistribution militaire concernant la bande de Gaza et le Hamas. On a vu que l'armée israélienne réintensifie, je dirais, ses opérations dans la bande de Gaza. Et on a vu très récemment, entre hier et aujourd'hui, des tirs de roquettes en provenance de la bande de Gaza vers le sud d'Israël.
Oui, alors peut-être que depuis l'Europe, on fait semblant de croire que tout est terminé ou presque, mais c'est loin d'être le cas et nous devons toujours rester sur nos gardes parce que l'accord avec le Hezbollah ne concerne pas seulement ou ne préconise pas seulement le retrait de l'armée israélienne. Il s'agit d'abord et surtout d'un retrait de toutes les branche du Hezbollah au nord de la rivière Litani et du déploiement effectif de l'armée libanaise dans le sud Liban sur les positions anciennement du Hezbollah ou sur d'autres positions avec l'aide de la FINUL. Or, cette partie-là de l'accord est loin d'être appliquée sur le terrain et tant qu'elle n'est pas appliquée, eh bien évidemment, on ne peut pas s'attendre à ce qu'Israël se retire et laisse un grand vide dans le sud Liban qui serait rempli par la force armée la plus décidée, la plus agressive sur place, j'ai nommé le Hezbollah. En ce qui concerne la Syrie, il faut faire très attention avec le nouveau pouvoir. Vous savez, ce ne sont pas des petits saints. La France a frappé des positions de Daesh, c'est bien, mais n'oublions pas qui sont ces miliciens qui ont pris le pouvoir à Damas, et on a bien vu comment ils traitent leurs ennemis d'hier, la population alaoui, dont est issue la famille Assad. On devra attendre quand même un certain temps avant de se prononcer sur les bonnes intentions de ce nouveau pouvoir, et surtout ses intentions par rapport à Israël. Donc, restons sur nos gardes. Et quant au Hamas, eh bien oui, cette organisation, même si elle a pris des coups terribles, continue à lancer des missiles sur le territoire israélien. Elle continue de tenir chez elle une centaine d'otages, ne l'oublions pas. Et elle refuse même de fournir une liste d'otages vivants qu'elle pourrait relâcher. Donc elle n'a renoncé à rien, comme si la bande de Gaza n'est pas dévastée. Elle n'hésite pas à utiliser les hôpitaux à Gaza comme autant de bases militaires pour ses miliciens. Et donc rien n'est terminé, rien n'est décidé et il faut continuer jusqu'à la libération de tous les otages.
Ouais, et d'ailleurs, vous avez vu ce reportage de la 12e chaîne de la télévision israélienne qui dévoile l'ampleur de l'infiltration numérique du Hamas dans les systèmes de sécurité israéliens bien avant le 7 octobre. En fait, depuis 7 ans, le Hamas a infiltré numériquement les systèmes de sécurité israéliens. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. On a vu hier Avi Dichter, qui est actuellement ministre de l'Agriculture en Israël, mais qui était auparavant l'ancien chef du Shin Bet, qui lui réclame aujourd'hui une commission d'enquête d'État. Il va à l'encontre de la volonté de Benjamin Netanyahou et d'une grande partie de la coalition. Mais ce que dévoile ce reportage de la 12e chaîne de télévision israélienne, la Startup Nation, elle a failli là.
Oui, je crois qu'on a vraiment failli de ce côté-là. On n'a pas pris au sérieux les capacités du Hamas et on a vu le résultat. Mais il faut dire aussi que ce n'est pas seulement une faillite technique. Il y a ça aussi, et on l'a vu dans ce reportage, et c'est certainement dû au manque de sérieux par rapport au Hamas. Mais il y a eu aussi une faillite politique, puisque un certain nombre de ministres éminents, pas des moindres éminents dans ce gouvernement, avait dit à l'époque le Hamas c'est un joker, le Hamas c'est une carte, une bonne carte pour nous, pour Israël, et il fallait le maintenir à tout prix. Et c'est cette politique-là qui a mené à cette attitude, je dirais, de manque de sérieux par rapport à la menace du Hamas. Et quand s'il y aura une commission d'enquête d'État, comme le réclame Avi Dichter et bien sûr beaucoup d'autres, il va falloir prendre en compte aussi cette politique qui avait consisté à maintenir le Hamas sur place, à le soutenir même, pour qu'il reste en contrôle de Gaza et surtout ne pas trop le froisser. C'est cette politique-là qui constitue la plus grande faillite politique d'un gouvernement israélien. Et on sait très bien qui a mené cette politique, qui l'a conçue et qui l'a appliquée. On le sait très bien, puisque tout cela est enregistré et les personnes qui avaient soutenu cette ligne n'ont pas hésité à se déclarer comme tel et à donner le raisonnement qui les avait menés à concevoir cette politique. Donc le doute n'est pas permis.
Deux questions encore avec vous, Yigal Palmor. Le Bureau central des statistiques en Israël vient de dévoiler un rapport révélateur sur l'évolution démographique d'Israël en 2024, mettant en lumière d'une part, un net ralentissement de la croissance de la population et une différence entre l'émigration avec un « et l'immigration avec un « i ». Il y a plus d'Israéliens qui ont quitté Israël que de Juifs qui sont montés en Israël.
Oui, bien sûr, j'ai vu ça, mais il faut émettre un avis plus nuancé et vérifier les chiffres l'année prochaine aussi. Pourquoi ? Parce que cette année, le Bureau central de statistiques a changé les critères du calcul de la population. Donc c'est très difficile de comparer les résultats de cette année avec ceux de l'année dernière et celle d'avant. Attendons l'année prochaine pour pouvoir comparer avec cette année qui vient de s'écouler, parce que, je répète, les critères ne sont pas exactement les mêmes. Le calcul est plus ou moins pareil, mais les critères pour savoir qui est résident, qui peut être considéré comme israélien, etc., etc., ces critères-là ne sont pas exactement les mêmes que l'année dernière. Alors, ne nous prononçons pas tout de suite. En ce qui concerne la baisse de la natalité, elle est surtout due à deux secteurs de la population israélienne qui s'était distinguée par une très haute natalité dans le passé, les ultra-orthodoxes et les arabes. Chez ces deux secteurs, on constate une baisse de la natalité et je crois que c'est ce qui influence le chiffre total. Il faut évidemment examiner le pourquoi. Je crois que ça a beaucoup à voir avec une plus grande ouverture sur la société générale et une plus grande adhésion à une certaine modernité, mais il faudra mener évidemment des enquêtes sociologiques pour en savoir plus.
Encore un mot avec vous, Yigal Palmor. Si on devait résumer avec vous cette année 2024 en Israël, il y a eu le choc du 7 octobre 2023, il a fallu des semaines pour comprendre comment, pourquoi, etc. Et à partir du début de l'année 2024, on peut dire que Israël a engrangé beaucoup de succès militaires. On l'a vu avec l'affaire des beepers, des talkie-walkie. On a vu ce que l'armée israélienne a fait en Iran. Bien évidemment, ce qui se passe dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, que diriez-vous de cette année 2024 et que pourriez-vous dire de l'année qui commence 2025 ?
Bien, je dirais très brièvement, c'était une année très difficile, une année annus horribilis, parce que nous étions encore sous le choc du 7 octobre, nous le sommes toujours, et nous avons dû mener une guerre sur un certain nombre de fronts. Ce n'est pas terminé, et même si nous avons remporté des succès militaires éclatants, ça ne vaudra rien si on n'arrive pas à ramener les otages. Donc la perspective aujourd'hui, c'est tout faire pour ramener les otages, et ça sera la priorité, en tout cas pour je ne sais pas, pour le gouvernement, mais en tout cas pour les Israéliens, les Israéliennes, ça sera la priorité absolue pour l'année 2025.
Yigal Palmor, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien, et bonne année civile 2025 à vous.
Merci, bonne année civile à tous.
Vous êtes sur Radio Shalom.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Marc Scalia, M comme musique, pour ces dernières heures de l'année 2024 avec le meilleur d'entre nous, Marc Scalia. Marc Scalia, Radio
Shalom. M comme medley. Comme artiste. R comme remix. C comme crazy. Au total, votre disque jockey se prénomme Marc.
Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est Schtroumpf.
Bonsoir à vous, j'espère que tout va bien. Dernier jour de l'année, attention, civil, bien sûr, 31 décembre. Alors, je suis honnête avec vous, l'émission est enregistrée, elle a été enregistrée hier soir. Mais bon, je tenais quand même à être présent, au moins pour le dernier jour, pour la dernière émission de l'année 2024. Et surtout que la programmation musicale de ce soir, elle est d'enfer. Et elle va donner en tout cas envie à beaucoup d'entre vous de danser. Et c'est un peu le cas ce soir pour beaucoup d'entre vous. We will dance again. Voilà, on dansera encore et toujours, quoi qu'il arrive. Ce soir, ben, j'ai une soirée au Cannes, à Paris, le restaurant, le Cannes Paris, dans le 17e. Mais en tout cas, nous, on a un super son ce soir. On a vraiment de super titres à vous proposer. Bon, il y a bien sûr un autre coup de cœur qu'on va écouter dans un instant. Il y aura Lionel Richie, Diana Ross, Jill Scott Heron, La Rousseau, Odyssey, Les Bee Gees. Bon, je vous en dis pas plus. Restez là. En tout cas, bonne fin de journée, bonne fin d'année surtout. Et tout de suite, notre coup de cœur depuis tellement longtemps, Maeva Fischer. Tout de suite avec K.O. C'est tout de suite.
T'es dans le sale, t'es dans le vrai, t'es dans le mal, tout ce qui me plaît. Tu me regardes, je me défais, je baisse la garde et les jeux sont faits. Tes mots m'ont mis K.O. Tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau en jouant avec le feu. Tes mots m'ont mis K.O. Tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau au-dessus de nous deux. Et tu t'installes dans ma tête, la nuit fait mal, jamais t'arrêtes. T'es pas dans le drama, donc tu me calmes. T'es plus dans le karma, je me désarme. Tes mots m'ont mis K.O. Tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau en jouant avec le feu. Tes mots m'ont mis K.O. Tes yeux m'ont fait croire que le ciel serait plus beau au-dessus de nous deux.
Radio Shalom. Depuis le 7 octobre, 6000 étudiantes et étudiants de l'Université de Tel Aviv ont été rappelés dans des unités combattantes et se battent sur tous les fronts. Certains sont hélas tombés au combat ou sont blessés. 3000 d'entre eux ont repris le chemin de l'université. 3000 restent mobilisés.
Nous, les amis français de l'Université de Tel Aviv, avons mis en place un fonds d'urgence pour les soutenir. Ce fonds finance des bourses d'études et des soutiens psychologiques avec notre faculté spécialisée dans le post-trauma. Soutenez les étudiantes et les étudiants combattants de l'Université de Tel Aviv en donnant en ligne sur allo-don, association française de l'Université Tel Aviv, et vous recevrez un reçu CERFA. Attention, événement! L'association Choisir l'école juive présente la 6e édition du Salon des écoles juives. Dimanche 19 janvier, préparez sereinement la prochaine rentrée scolaire. Pendant une journée, les représentants de toutes les écoles juives de France et filières post-bac vous accueilleront sur leur stand à l'hôtel du collectionneur. Venez échanger avec les équipes pédagogiques, bénéficier d'un entretien individuel d'orientation offert et découvrir les programmes d'études en Israël et à l'international. Le Salon des écoles juives, dimanche 19 janvier dès 10h, dans les salons de l'hôtel du collectionneur Paris 8e. Entrée gratuite, animation enfant toute la journée. Restauration cachère et services de sécurité sur place. Alors, venez nombreux.
Pourquoi on allume des bougies à Hanouka, papy?
Les bougies symbolisent la lumière, mon petit. Mais cette année, il faut aussi penser à ceux qui sont dans l'obscurité.
Ceux qui n'ont rien?
Exactement. L'OSEE aide les enfants et les familles dans le besoin à célébrer Hanouka.
On peut aider aussi?
Oui, en faisant un don. Chaque petit geste peut illuminer le cœur de quelqu'un.
Pour donner à l'OSEE, rendez-vous sur osee-france.org ou faites un chèque à l'OSEE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Ici la voix, faites comme la voix. Écoutez Max Gallia sur Radio Shalom. C'est tout pour le moment.
Uno, dos, tres, cuatro.
Showing up in the fire.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
c'est terminé pour ce soir, pour cette dernière émission de l'année civile. On a eu le droit vraiment à des super titres, Maeva Fisher, Lionel Richie, Diana Ross, il y a eu également La Rousseau, Jill Scott Aaron, Odyssey, les Bee Gees, que des stars des années 80, 90, 2000 même, avec La Rousseau quand même, hein. C'est un titre qui avait bien marché dans le début 2000. Voilà, et ben écoutez, qu'est-ce qu'il me reste à faire quand même, et ça c'est très important, et avec Henri d'ailleurs, on va souhaiter une bonne année quand même, non?
C'est ça, très bonne année à tous.
Voilà, et un super réveillon en famille, entre amis, faites la fête, profitez. We will dance again, dansez toujours et encore. Et bien sûr, une année pleine d'amour, plein de bonheur, pleine de joie et surtout, Henri, en bonne santé.
Ah, ça, c'est sûr.
C'est important.
La santé, c'est le plus important.
Bisous à tous, à l'année prochaine, demain, donc, ça sera 19h30, l'émission enregistrée. Bonne année, salut.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Que ce soit pour votre mutuelle santé, votre auto, votre assurance commerce, votre assurance professionnelle, votre décennale ou tout simplement pour votre habitation, l'assurance comparateur depuis plus de 19 ans vous propose les meilleurs contrats adaptés à votre situation et en plus aux meilleurs tarifs. Sans perdre de temps sur des sites internet à chercher le moins cher, appelez-nous tout simplement et nous trouverons pour vous la meilleure offre. Vous nous téléphonez au 01 46 59 22 28, 01 46 59 22 28, toutes nos adresses sur www.l'assurance.fr. L'assurance s'écrit avec un S à la fin. À tout de suite pour de sacrées économies.
Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
Le mémorial de la Shoah, le plus grand centre d'archives en Europe, préserve et transmet les archives de la Shoah depuis plus de 70 ans. Parce que chaque document est une histoire, venez de